Dans le cadre de leur émission Les Chemins de l'Histoire, Daniel et Jean Fleury vous présentent une série de 4 émissions relatant un point d'actualité sur les relations entre communautés juives et protestantes depuis Luther et notamment, bien sûr, durant la période tragique du XXe siècle. Un thème qui fait suite au rassemblement du 4 juin dernier au Musée du Désert à l'occasion de la remise au grand rabbin de France, Haïm Korsia, d'un bas-relief en bronze. Aujourd'hui, présentation de Denis Carbonnier, président du Musée du Désert, suivi de l'intervention de l'artiste, donc Vinci Garden, et le tout agrémenté par des chansons de Corinne Lafitte.
Quelques mots sur Yep, pour ceux qui ne la connaissent pas. Yep est née à Amsterdam, et aujourd'hui, elle vit dans la campagne Sevenol, à quelques kilomètres d'ici. Elle a eu plusieurs carrières. Elle a tout d'abord eu une carrière théâtrale d'actrice. En 82, par exemple, d'après ce qu'elle dit, grâce à un concours de circonstances, mais je n'en crois rien, ce n'est pas un concours de circonstances, c'est son talent, elle a été choisie parmi 3000 jeunes filles pour jouer le rôle d'Anne Frank. Elle l'a joué donc dans une pièce de théâtre aux Pays-Bas, qui est devenue ensuite un téléfilm. Par la suite, elle a également joué, je picore simplement quelques éléments de sa carrière d'actrice, elle a joué dans le film de Jean-Louis Lorenzi, La colline aux mille enfants. La colline aux mille enfants, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce téléfilm, ça évoque ce film, ce n'est pas un téléfilm, c'est un film, cela évoque le refuge qu'ont trouvé certains juifs pendant Deuxième Guerre mondiale, au Chambon-sur-Lignon, et le sauvetage donc de ces juifs au Chambon-sur-Lignon, c'est-à-dire dans les Hautes-Cévennes, à quelques encablures d'ici. Mais c'est le dessin, c'est la peinture qui l'appelle en réalité. Tout à l'heure, elle viendra nous en parler, et vous pourrez admirer également, donc non seulement le bas-relief qu'elle va dévoiler, mais également quelques œuvres de sa création qui se trouvent dans la bergerie derrière moi. Donc je vous invite à aller visiter cette exposition. Je signale au passage, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, qu'il y a une autre exposition au Musée du Désert, d'un peintre également, d'un artiste juif allemand, Léo Maillet, qui avait trouvé refuge dans les Cévennes entre 1942 et 1944. D'ailleurs, comme on est toujours mieux servi par soi-même que par d'autres, je signale que Patrick Cabanel, ici présent, a... préfacé un livre sur le peintre, avec les œuvres de ce peintre, Léo Maillet. Alors vous vous demandez pourquoi nous sommes ici, pourquoi vous êtes plus exactement ici, au Musée du Désert. Quel est le rapport exactement qu'on peut trouver entre ce bas-relief qui va être dévoilé, ces œuvres, et le Musée du Désert? Alors, quelques mots pour situer ce que l'on appelle le désert. Le désert, c'est dans l'histoire nationale, c'est la période qui s'étend entre la révocation de l'édit de Nantes, qui a interdit la religion protestante, et la Révolution française. Durant un siècle, la religion protestante donc était interdite en France, dans une France toute catholique, sous Louis XIV, sous Louis XV, et en grande partie sous Louis XVI, pratiquement donc jusqu'à la Révolution française. Un siècle durant lequel les protestants ont dû se cacher pour pouvoir exercer leur culte librement, mais de manière cachée. Ils l'ont fait donc surtout dans les Cévennes, ici même. Ils faisaient leur culte dans des ravines, dans des grottes, dans des bois, dans des sous-bois, un peu comme celui que nous rencontrons, que nous sommes ici, mais qui était peut-être moins riant à l'époque. Un siècle donc qu'on a appelé le désert, c'est un désert donc qui est tout d'abord physique. Le désert, c'est effectivement, il n'y avait personne, et donc on pouvait ainsi se réunir. Mais Ce désert, c'était également une métaphore. Les protestants, j'allais dire peut-être surtout à cette époque, les protestants avaient une culture biblique très profonde, une culture de l'Ancien Testament, une culture de la Torah, je pourrais dire, qui leur faisait souvenir que dans le livre de l'Exode, les dieux avaient obligé les Hébreux à errer pendant une quarantaine d'années dans le désert, donc, où ils ont subi donc, des tribulations, des difficultés très profondes. Et donc les protestants, tout naturellement, se sont dit que ben, aussi Dieu leur envoyait une épreuve. Durant ce siècle, où le protestantisme donc était interdit, il y a eu une résistance non violente, mais également une résistance plus violente. C'est ce qu'on appelle la guerre des Camisards. La guerre des Camisards, c'est une période qui s'étend sur 2-3 années, au cours de laquelle de la jeunesse, les jeunes essentiellement, ont pris des armes contre le pouvoir royal pour se révolter. C'est une véritable révolte. Et ils n'étaient pas nombreux. Ils étaient 2000, 2500 au maximum. Et ils ont tenu en échec les troupes royales, qui, elles, étaient beaucoup plus nombreuses, environ 25 000 personnes, 25 000 soldats. Et, bien entendu, la force, néanmoins, l'a emportée. Et en 1704, la guerre des Camisards, à proprement parler, enfin, même s'il y a eu des escarmouches par la suite, s'est terminée. Mais hormis cet épisode de résistance violente, la résistance était une résistance essentiellement pacifique. Elle était pacifique, c'est-à-dire que les protestants se réunissaient, comme je vous l'ai dit, dans des assemblées clandestines, avec le risque, bien entendu, que cette assemblée soit surprise. Une assemblée surprise, ça voulait dire que les hommes étaient envoyés aux galères, les enfants étaient enlevés aux parents et placés dans des couvents pour une rééducation, et les femmes, elles étaient enfermées en prison. La plus célèbre des prisons, la plus locale, disons, c'est la Tour de Constance, donc à Aigues-Mortes. La célèbre Tour de Constance, où vous pouvez, si vous la visitez, voir sur la margelle du puits un mot qui est un mot emblématique, un mot qui fera Florès, résister. Et donc, cette résistance, c'est là le message du musée du désert. Ce musée, que je vous incite, bien entendu, à aller visiter, soit dit en passant. Ce musée, il est installé dans la maison natale d'un des chefs camisards, Roland, qui est mort au combat. Il était très jeune, il avait, je crois, 23 ou 24 ans. Et donc, ce musée raconte cette histoire, cette longue histoire, ce siècle, ce long combat pour la liberté de conscience. Et ce n'est qu'à la Révolution française que grâce à l'article 10, enfin que grâce à la Déclaration des droits de l'homme et à l'article 10 spécialement, que la liberté de conscience a été donnée. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Et donc, c'est là où il y a eu, à ce moment-là, la liberté. Ce musée, il a été inauguré il y a très longtemps, en 1911. Et dès l'origine, il y a eu une assemblée qui s'est tenue chaque année, au mois de septembre, aujourd'hui le premier dimanche de septembre, une assemblée qui se tient donc un peu plus bas ici, qui réunit une dizaine de milliers de personnes à peu près chaque année, en souvenir de ces assemblées clandestines. Ces assemblées, elles ont généralement un thème qui est en rapport entre l'histoire et l'actualité. Et durant la période de la guerre, où le musée a continué tant bien que mal à vivre, l'assemblée était toujours, il y avait toujours des assemblées qui avaient lieu ici, avec des thèmes qui étaient plutôt des mots d'ordre. Le thème libre, je vous rappelle que les Allemands n'étaient pas très loin, libre, sous la croix le triomphe, fidélité, liberté, résister. Résister, c'était tout à fait naturel, puisque c'était le mot d'ordre de Marie Durand à la Tour de Constance. En 2012, Nous avons commémoré une assemblée particulière, l'assemblée donc du mois de septembre 1942. Je crois que Patrick Cavanel en parlera, donc je ne vais pas développer. Et en 2012, donc, il y a eu le dévoilement de la plaque que vous voyez ici, qui rappelle cette assemblée de 1942. Au cours de cette assemblée, Monsieur le Grand Rabbin était présent ici, avec Claude Batty, le président de la Fédération protestante de France, et le directeur du mémorial de la Shoah, notamment, et Patrick Cabanel aussi, et Philippe Joutard. Donc vous voyez tout de suite le lien que l'on peut faire entre le Musée du Désert et la cérémonie qui se déroule aujourd'hui. Donc c'est dans cette fidélité que nous allons ainsi nous passer cet après-midi ensemble. Alors très rapidement, le programme de l'après-midi, si, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout d'abord Patrick Cabanel qui nous donnera une conférence, je reviendrai tout à l'heure. Ensuite, Corinne Lafitte nous donnera un moment musical. Yep présentera son œuvre, et on a hâte de la voir, parce qu'elle est voilée, donc on ne sait pas où ce qu'elle représente. Enfin si, on sait ce qu'elle représente, mais on ne la voit pas. Et ensuite, il y aura les interventions donc, de Haïm Korsia, de Étienne Lermenouf, président, ancien président du Conseil national des évangéliques de France, et du pasteur François Claveroli, ancien président de la Fédération protestante de France, représentant président Christian Krieger, qui est l'actuel président de la Fédération protestante de France. Voilà donc le déroulement de l'après-midi, étant précisé qu'à 17h, la cérémonie sera terminée.
Alors, maintenant c'est mon tour. La parole, c'est écrit que l'Éternel utilise les choses folles pour confondre les sages. Hein. Alors je ne dis pas que vous êtes des sages, hein, mais moi je suis un peu folle, ça c'est sûr. Alors, je vais vous expliquer comment cette bronze elle est née à partir de cette peinture. Mais je veux aussi être très honnête, l'idée est née par moi. Mais après, autour de moi, il y a eu toute une équipe. Et pour ça, je veux quand même demander à Joël Trefcon, parce que moi, les noms, je suis vraiment pas très bien pour les noms. Donc je veux quand même que lui, il explique notre équipe derrière moi, sinon j'ai l'impression que je trahis les miennes. Alors, c'est en 2010 que j'ai commencé à travailler sur une plaquette. On ne travaille pas en bronze, mais je l'ai travaillée en terre, à partir d'une peinture que j'avais faite. Et c'était pour la Hollande, pour un chemin de fer, pour une gare. Et dans cette gare, il y avait 324 juifs qui étaient déportés et exterminés. Et donc, j'ai fait ce bronze, et après, j'ai perdu le moule. Voilà, le temps passe. Je suis venue là dans les Cévennes. Donc, ça fait 33 ans que j'habite en France, que je me suis mariée avec un Français. Et oui. Et voilà, on était venus ici, et Philippe, mon mari, dit, mais ça serait chouette si tu peux refaire le bronze. Voilà. C'est lui qui, donc, en fait, qui a l'idée. Et j'ai dit oui, c'est bon. J'ai commencé donc, j'ai fait une cire et j'ai commencé à le travailler dans mon atelier. Pendant quelques mois, j'ai travaillé dessus. Et pendant que j'ai travaillé, j'ai entendu ces petites voix. Vous voyez, les artistes, ils entendent des voix, ils voient des images. Comme une brise légère dans mon cœur qui dit, donne-le au grand rabbin de France. Donne-le à la communauté juive, mais pas en tant que moi, parce que qui je suis, hein, mais en tant que nous, en tant que tout le monde. Et c'est vrai, moi, je ne suis pas théologique, théologien, je n'ai pas fait des autres études, mais je suis artiste et mon cœur est à l'unité. Donc, je suis heureuse qu'il y a l'Église catholique, je suis heureuse qu'il y a des réformés et des protestantes. C'est tous ceux qui veulent se lever pour ce geste qui sont le bienvenu. Et donc voilà, c'est là où le travail a commencé. C'est surtout Michel Marvin qui était important, mais Joël Trefcon, donc, qui était un pilier dans notre groupe. Et voilà, aujourd'hui on est là. Donc. Et je vais expliquer l'idée qui était derrière cette bronze. Elle est basée sur Michelet, Proverbe 24, verset 11. Et quand j'ai lu ça pour la première fois, puisque je ne suis pas née entre deux pages de la Bible, donc je me suis tournée vers le Dieu d'Israël beaucoup plus tard dans ma vie. Mais quand j'ai lu « Délivre ce qu'on traîne à la mort, ce qu'on va égorger, sauve-les. » Si tu dis « Ah, mais nous ne le savions pas. » Est-ce que celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Et celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Quand moi j'ai lu ça, j'ai dit, qu'est-ce que c'est écrit en allemand? Je suis hollandaise, née à Amsterdam. Et oui, dans la Bible en allemand, c'est écrit, on va nous sagen wollst, wir haben das nicht gewusst. Et là, moi, je tombe de ma chaise. J'ai dit, 2700 ans, l'Éternel dit, à travers une voix prophétique sûrement, si ça, nous ne le savions pas, quand tu vois qu'on traîne à la mort son peuple, qu'on va les égorger, c'est quelque chose que tu ne peux pas dire. Et sur ça, j'ai commencé à dessiner une peinture, deux peintures, trois peintures. Donc ça, c'est une reproduction, il est trois fois plus grand en réel. Et j'ai commencé, donc j'ai fait ici les déportés. Ils se posent des questions, est-ce que j'ai fermé... la porte éteint la lumière. Cette dame, ma enceinte, elle est sortie sans chaussures. Il y a la voie ferrée. Et il y a cette petite village. Et cette village, elle n'a pas de fenêtre. Et là, à travers de tout ça, on voit cette prophète qui sonne le chauffard. Et vous le savez, autant que moi, je pense tout le monde, quand on sonne le chauffard, normalement, ce n'est pas pour une petite arrête. Avant, c'était au début de la guerre. Bien sûr, c'est Yom Kippour. Mais c'est quelque chose de tellement profond et important qui dit « Détourne-toi et regarde. » Et ici, dans cette peinture, j'ai cherché pour dire « Arrête-toi et regarde, car il y a quelque chose là qui ne roule pas rond. » Donc, il y a la voie ferrée qui se sépare de cette église, de ces déportés, et eux, ils attendent le boulevard des déportés. Et qu'est-ce qui ne marche pas? Que cette église, donc, qui n'a pas les fenêtres ouvertes, qui n'a pas voulu voir ça, Mais donc, si tu le transposes en l'Allemagne des années 40-45, mais je crois que c'est un principe qui compte autant pour la Hollande, pour la France. Dans des années 40, si Jésus aurait été vivant, il n'aurait pas pu être dans l'Église. En 1933, les Juifs chrétiens qui voulaient être pasteurs étaient déjà mis dehors. En 1938, c'était tous les Juifs qui étaient convertis qui devraient être dehors. Donc si je place cette image dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, Jésus, il aurait été plus là, mais là. Et Jean, et Marc, et Marie, et Sarah, et Abraham, et Habakkuk, et Zacharie, et en fait, toutes les personnes, à travers l'Éternel a écrit la parole, ils ont été de l'autre côté du voie ferrée. Donc ma question était, mais quel Dieu on a donc adoré là que... C'était quoi cette idée? Et quand j'ai commencé à étudier, parce que j'aime bien lire sur ce temps et sur les chrétiens de l'Allemagne, ils ont commencé en fait à dire « Oh, la Bible, ce n'est pas forcément inspiré. Surtout l'enseignement, c'est trop juif. On le coupe. » Dans le Nouveau Testament, il y a des passages, ça ne nous plaisait pas trop, c'est trop juif. On les coupe. Et donc, si on peut réfléchir un instant que Jésus, ce Messie, il dit qu'il est la parole. On coupe. Et on a créé donc un Messie à notre propre image. Tandis que c'est l'Éternel qui dit, je crée l'homme à mon image, ou en fait à notre image. Mais non, dans ce temps, cette église des Deutsche Christen, ils ont donc créé un Dieu à leur image, à leur idée. C'est devenu un idolâtrie, une idée, une idéologie, et cette idéologie s'est devenue une idolâtrie. Parce que le véritable Dieu de la parole était de l'autre côté. Et donc ça veut dire qu'il est possible, tout en étant chrétien, que le Dieu qu'on adore, s'il n'est plus le Dieu de la Bible, c'est une idole, et on est donc en train de faire une idolâtrie. Et puisque moi je voyage beaucoup, je parle partout, mes œuvres sont plutôt dans les synagogues, parce que dans les églises, ils ne rentrent pas toujours. J'ai fait un Messie nu, circoncis, et je l'ai placé au milieu de l'Holocauste, de nouveau pour dire, il a été là. Comme vous pouvez voir dans la bergerie, qu'il y a un Messie qui est au milieu, qui marche au milieu, que j'ai peint. Et ces tableaux-là, dans une église, une grande église, en plus royale de la Hollande, ah, ça, ils n'ont pas voulu. Et quand je l'ai mis dans la synagogue, le rabbin a dit, celui-ci, il est à nous. Et il avait raison. Mais, donc, il y a beaucoup de travail, et bien sûr, il y a des bonnes choses qui se passent, mais je suis, moi, de partie qu'un autre te loue, mais et pas ta propre bouche. Moi, je parle plutôt des choses qui ne vont pas. Et moi, je suis aussi plutôt d'avis qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a quelque chose qui est en train de mousser. Il y a de nouveau un antisémitisme dans nos rangs, qui est d'extrême droite, qui est des théories de remplacement. Et qu'aux États-Unis, ça va très très loin, où on peut voir des vidéos. Vraiment, quand ils prononcent le nom de Jésus-Christ, tu as l'impression qu'on te tape. C'est comme un couteau, c'est comme une malédiction qu'on prononce. Et dans ces films que moi j'ai vus, on prononce tout au nom de Jésus-Christ, donc l'idole, il y a le signe de SS, et qui est leur ennemi? Les Juifs. Et c'est des choses qui sont partout sur les réseaux. Steven Spielberg a dit dernièrement dans une interview qu'il n'aurait pas pensé une seconde d'avoir un antisémitisme tellement violent dans son temps naître de nouveau aux États-Unis. Et tu vois, cet antisémitisme de gauche, des gens bien pensants, très humanistes, mais qui picorent dans la parole, comme c'est un pique-nique, et on fait de nouveau, on fait un Messie à notre image. Et cette Messie, voilà, et voilà les Juifs, oh, c'est pas vraiment nécessaire, et Israël, cette terre, bon, si les paroles ne sont pas plus la parole de Dieu, mais pourquoi cette terre d'Israël ? Tandis que dans la parole est écrit maintes fois que l'Éternel donne cette bout de terre au peuple juif, au peuple d'Israël, et il le donne d'éternité en éternité. Alléluia. Puisque si ce n'était pas assez de l'éternité, il en rajoute encore un bout. Et donc, moi, je ne suis pas politicien, tandis que j'aime bien la politique. Mais on ne fait pas de la politique. Je ne parle pas de la politique, mais je parle qu'on a besoin d'avoir un cœur. Parce qu'on peut avoir des vérités comme on est protestant, on est réformé, on est catholique, et on peut avoir des vérités, des dogmes. Et je ne dis pas que tout est mauvais, parce que ce n'est pas vrai. Mais la plus chose importante, c'est qu'on a un cœur qui est vrai. Pas qu'on connaît des vérités, mais que notre cœur est vrai. Parce qu'on peut dire des vérités, mais notre vie peut être une contrefaçon. Et je crois que l'Éternel, il aime. Unis mon cœur pour craindre ton nom. Unis notre cœur. Et ce que, quand on regarde dans le passé, ceux qui ont avait les voies ouvertes, le Chambon-sur-Lignon, Trocmé, Dietrich Bonhoeffer, Corrie ten Boom, c'était des personnes qui avaient fait pas forcément une théologie sur laquelle ils avaient mis une étiquette, mais ils avaient un cœur. Et ça, c'est de nouveau, de droite ou de gauche, n'importe, on vit dans une époque où on doit aimer la parole. Et si on aime l'Éternel, et l'Éternel aime son peuple d'un amour éternel, comment nous, chrétiens, ne pouvons pas aimer ce peuple ? Et on doit l'aimer.
Lui, le Dieu d'Israël.